Un journal présenté ce soir par Thomas Larabi. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Le procès des attentats de janvier 2015 touche à sa fin. Le jury s'est retiré pour délibérer et le verdict doit tomber mercredi pour les 14 accusés qui risquent des peines allant de 5 ans de prison jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Nous serons en direct de la cour d'assises spéciale de Paris avec Florence Turme dans un instant. Le Havre et Charleville-Mézières lancent une grande campagne de dépistage massif contre le Covid-19. Un test grandeur nature pour ce dispositif réclamé par de nombreux épidémiologistes depuis plusieurs mois. Sur la base du volontariat, les habitants de ces deux agglomérations peuvent bénéficier de tests antigéniques ou PCR gratuitement et sans ordonnance jusqu'à samedi. On y revient avec Tarash Legal. Et puis aux États-Unis, les grands électeurs se réunissent dans les 50 États américains pour élire le prochain président de la République. Cette procédure ne devrait être qu'une simple formalité pour Joe Biden, mais elle revêt cette année une importance particulière alors que Donald Trump continue d'accuser ses adversaires démocrates de fraude électorale. Nous ferons le point depuis Washington avec Grégory Phillips. Le jury s'est retiré pour délibérer au procès des attentats de janvier 2015. 3 mois et demi après son ouverture, le procès touche à sa fin. Le verdict est attendu mercredi. Les 14 accusés risquent des peines allant de 5 ans de prison jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Ils sont soupçonnés, je le rappelle, d'avoir assisté les auteurs des attentats contre Charlie Hebdo, contre le magasin hypercachère de la Porte de Vincennes et contre une policière municipale à Montrouge. Florence Turme, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de la cour d'assises spéciale de Paris et en ce dernier jour d'audience, la défense et les accusés ont pu prendre la parole une toute dernière fois.
Le premier, Christophe Rommel, s'approche de la barre. Il est le seul à comparaître libre et ses derniers mots seront pour les victimes. J'ai vu des images choquantes, des témoignages bouleversants et j'ai vraiment honte de me retrouver dans ce dossier. Compassion pour les familles des victimes, chacun va le dire à sa manière, certains au bord des larmes comme Michael Nézard, pasteur alouatique. J'espère que vous trouverez le repos, mais j'ai jamais eu aussi peur de ma vie, ajoute-t-il. Et il s'adresse à la cour. Oui, j'ai fait des conneries comme tout le monde, mais faut me croire si je dis que je n'ai rien à voir avec ça. Après leurs avocats qui ont tous ou presque plaidé l'acquittement, les 11 hommes répètent qu'ils sont innocents. Certains affirment leur confiance en la justice, d'autres leur colère. Ali Rizapolat, contre qui l'accusation a requis la réclusion à perpétuité, se lance dans un interminable discours à l'image de ceux qu'il a pu tenir lors du procès. « Je peux pas demander pardon pour une chose que je n'ai pas faite », le président finit par l'interrompre. « J'ai malgré tout l'impression d'avoir été entendu et compris », lâche Miguel Martinez. « Je ne suis pas un terroriste, je n'ai jamais était un sympathisant. Il confie avoir pu échanger avec une victime. « Ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, vous avez le reste de ma vie entre vos mains. » La cour se retire pour délibérer. La salle se vide. Et Ségolène Vincent, l'une des survivantes de Charlie Hebdo, s'approche du box avec Hélène Honoré, la fille du dessinateur abattu par les frères Kouachi. Elles ne diront rien de cet échange avec deux des accusés, si ce n'est en substance ce qu'elles attendent depuis le début de l'audience. Une justice qui rende le droit et ne soit pas dictée par la vengeance.
Florence Turme depuis la cour d'assises spéciale de Paris avec François Rivalon pour les moyens techniques. En attendant le lancement prochain d'une campagne de vaccination contre la Covid-19, Le Havre et Charleville-Mézières lancent aujourd'hui une opération de dépistage massif. Jusqu'à samedi et sur la base du volontariat, les habitants de ces deux agglomérations peuvent bénéficier de tests antigéniques ou PCR gratuitement et sans ordonnance. Et si tout le monde semble s'accorder sur l'efficacité d'une telle stratégie, réclamée d'ailleurs depuis de longs mois par certains épidémiologistes, cette efficacité a une condition sine qua non, que les citoyens aillent effectivement se faire tester, Tarash Legal.
Oui, ça paraît évident dit comme ça, mais le volume des tests envisagés est quand même assez modeste. Charleville-Mézières, 123 000 habitants, le double si on parle de toutes les Ardennes. Eh bien, l'ARS estime que 15 à 20% de la population sera testée. Au Havre, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, plus ambitieux, a dit au JDD, nous serons sans doute en dessous des 50%. L'agglomération compte 270 000 personnes. Là encore, on voit bien que tout le monde n'ira pas. Deuxième variable, Thomas, les résultats doivent tomber vite. Ce sera sûrement le cas cette fois, car l'incitation est désormais très forte. Depuis ce lundi, les laboratoires ne sont plus du tout remboursés s'ils délivrent les résultats plus de 48 heures après avoir prélevé un patient. Troisième chose, c'est une étape cruciale, le traçage et l'isolement. À Charleville-Mézières, 142 chambres d'hôtel sont réservées pour les cas positifs. Les malades isolés seront suivis par la Croix-Rouge avec des paniers repas, un soutien psychologique, mais accepteront-ils d'y aller? Rien n'est moins sûr. Et puis, il y a la question du type de test qui est laissé au choix, alors que ce sont vraiment des tests différents. Les tests antigéniques sont très fiables lorsqu'on a déjà développé les symptômes et qu'en gros, on se fait tester pendant les 4 premiers jours de l'infection, mais ils passent facilement à côté ces tests des personnes asymptomatiques ou alors qui ont une charge virale très faible en fin de maladie. Les tests PCR, eux, sont beaucoup plus fiables à condition que le geste technique soit bien réalisé. Enfin, à Liverpool, qui sert de modèle à la France, eh bien, l'opération a permis de faire baisser sensiblement les contaminations, mais elle est très critiquée parce que la courbe avait commencé à s'inverser en fait avant le dépistage massif dans la ville.
Les précisions de Tara Schlegel. Alors que la fin officielle du deuxième confinement est pour demain, avec la disparition des attestations de sortie et le début d'un couvre-feu allant chaque jour de 20h à 6h du matin, Bruno Le Maire a jeté une nouvelle ombre sur la réouverture des bars et des restaurants. Je ne peux pas vous dire avec certitude que nous rouvrirons les bars et les restaurants le 20 janvier, a notamment déclaré le ministre de l'économie au micro de France Info ce matin. Hasard ou non du calendrier, les gérants et salariés de bars, de restaurants et de discothèques se sont rassemblés à Paris cet après-midi pour crier leur détresse et leur besoin de visibilité, avec comme principal slogan « Laissez-nous travailler ». Et demain, c'est le monde du spectacle qui a prévu de battre le pavé contre la décision du gouvernement de prolonger la fermeture des lieux culturels qui aurait dû rouvrir justement ce mardi. Les syndicats et les artistes s'apprêtent à déposer un référé liberté devant le Conseil d'État pour annuler la décision du gouvernement. Emmanuel Macron rencontre en ce moment même les citoyens de la Convention pour le climat. J'avais pris l'engagement que nous reprendrions vos propositions sans filtre. Cela ne veut pas dire que les propositions seront telles quelles à la fin du processus, a notamment déclaré le chef de l'État. Un projet de loi climat est attendu à la fin du mois de janvier, alors que beaucoup craignent un détricotage en règle des mesures proposées par la Convention. Et en parallèle, l'État lance aujourd'hui un vaste programme de rénovation thermique. Plus de 4000 bâtiments publics sont concernés, avec une enveloppe de 3 milliards d'euros. Les principaux bénéficiaires de ce plan devraient être des universités et des établissements de recherche, mais aussi dans une moindre mesure des commissariats, des préfectures ou des casernes, avec deux critères essentiels fixés par le gouvernement: réduire de façon significative la consommation d'énergie et livrer les travaux avant 2024. Les précisions de Cécilia Arbonat.
À la tête d'un parc immobilier public de 191 000 bâtiments pour une surface de 97 millions de mètres carrés, l'État veut montrer l'exemple dans l'effort national de réduction des consommations énergétiques et de l'empreinte carbone. Il se lance donc dans une rénovation générale à tous les étages, du Calvados au Gers, le centre des finances de Bayeux, l'hôpital d'instruction des armées à Brest, le tribunal judiciaire de Nanterre ou encore la caserne Labaudère à Mirande. Mais c'est surtout dans la réhabilitation des universités que les efforts vont se concentrer. Olivier David, président du campus de Rennes 2, est ravi que le bâtiment E, qui date de 1967, soit sur la liste du gouvernement.
C'est un bâtiment qui a été construit par l'architecte Aretsch. Juste pour vous donner une indication, on a fait un diagnostic énergétique de tous nos bâtiments. Sur une note totale sur 100, celui-là n'affiche qu'une note de 40. Et c'est vrai qu'il fallait, pour pouvoir, émarger à ce plan, avoir des travaux et des projets qui soient quasiment ficelés. C'était le cas du bâtiment E, puisqu'on est actuellement en train de stabiliser le scénario pour enlever tous les bureaux et pouvoir entamer les travaux rapidement.
Selon le ministère de l'Économie, 95% des projets sélectionnés sont des chantiers de moins de 5 millions d'euros. Ils devraient donc profiter à des entreprises locales. À travers le pays, 20 000 emplois pourraient être créés.
Cécilia Arbonat. Zoom maintenant sur une décision politique qui fait des remous dans la métropole de Lyon. Les écologistes, élus haut la main en juin dernier, ont décidé d'appliquer leur programme et viennent de créer une régie publique de l'eau. Veolia est donc écartée de la gestion de la production et de la distribution de l'eau au profit de la collectivité sur les terres historiques, pourtant de la Compagnie Générale des Eaux. Un reportage à Lyon de Mathilde Imberti.
Une zone classée Natura 2000, 375 hectares et à 5 km seulement du centre de Lyon. Le champ de captage de l'eau de la métropole est un site exceptionnel et convoité. Thierry Roch en est le responsable pour Eau du Grand Lyon.
On a le Rhône juste en dessous. En fait, le champ captant se comporte comme une usine naturelle à ciel ouvert. Et en sortie du champ captant, on a une eau qui est naturellement potable. On a globalement des performances techniques qui sont tout à fait honorables. On a par exemple un rendement de réseau qui est de 85%, des conformités supérieures à de l'ordre de 99,9%. donc une eau de très très bonne de qualité. Ce sont 375 hectares qui sont consacrés à la production, dédiés totalement à la production d'eau potable, avec 114 puits et une production quotidienne globale à l'échelle de la métropole de 240 000 m3. C'est un volume très considérable, on est dans les volumes quotidiens de production journalière les plus importants de France.
Le contrat lyonnais pèse 90 millions d'euros par an, le deuxième plus gros de France pour le prestataire privé Veolia Eau. Mais le président de la métropole, l'écologiste Bruno Bernard, rebat les cartes.
La régie publique, ça permet d'avoir une vision à long terme de la ressource de l'eau, déconnectée des enjeux financiers. Et donc c'est très important pour changer les réseaux, les canalisations plus souvent. Aujourd'hui, elles sont changées tous les 107 ans. On va passer à 80 ans de changement de réseau pour diminuer le taux de fuite, puisqu'actuellement, on perd 16% de l'eau est perdue dans les réseaux à cause des fuites. Et puis, on va travailler avec les agriculteurs pour passer en bio, pour ne pas avoir de risque de pollution de l'eau. On va travailler avec eux aussi pour qu'ils consomment moins d'eau et qu'ils changent parfois les productions. Ou encore travailler avec les industriels pour que dans leur consommation d'eau, ils réutilisent les eaux des process pour diminuer et préserver la ressource qui est vraiment notre priorité première.
Un aveuglement dogmatique hurle l'opposition pour qui les avantages d'un passage en régie ne sont pas prouvés, tandis que Veolia Eau accuse le coup, le directeur régional Cyril Chassagnard.
Je voulais simplement rappeler que cette marge, 5% de marge, en gros, ça représente 5 euros par an et par foyer de la métropole. 5 euros par an pour bénéficier d'un service avec un opérateur spécialisé qui fait de la recherche, qui innove, qui essaie d'être au rendez-vous de tous les indicateurs qui lui sont fixés. Voilà, pareil, raisonnable. Quand on vous annonce que malgré le fait que vous ayez fait bien votre travail, que vous ayez atteint les objectifs qui étaient fixés par le contrat, il y a une décision politique de passer en régie. Ben, ça fait mal à tout le monde, mais de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de respecter les choix politiques.
Le passage en régie acté ce lundi par le Conseil de la Métropole sera effectif en 2023, ce qui laisse deux petites années pour se préparer à ce changement majeur. Il ne devrait pas s'accompagner de casse sociale. Les quelques 300 salariés de Veolia Eau seront repris par la collectivité.
Après des préparatifs express durant tout le week-end, les États-Unis entament aujourd'hui leur vaste campagne de vaccination contre le Covid-19. Une soignante new-yorkaise a ouvert le bal en début d'après-midi avec le vaccin Pfizer dans le pays le plus touché au monde, avec près de 300 000 morts et plus de 16 millions de cas détectés. Par ailleurs, le Canada et le Québec débutent également aujourd'hui leur première phase de vaccination. Aux États-Unis, toujours c'est aujourd'hui que les grands électeurs se réunissent dans chacun des 50 États américains. Ils doivent désigner le vainqueur de l'élection présidentielle du 3 novembre. Sans surprise et malgré les contestations de Donald Trump qui refuse toujours de concéder sa défaite, Joe Biden va l'emporter et entrera officiellement à la Maison Blanche le 20 janvier. À Washington, Grégory Phillips.
Le petit État du Vermont, dans le nord-est des États-Unis, est le premier de la journée à réunir ses grands électeurs, un homme et deux femmes, choisis en qualité d'anciens élus, qui sont là, au siège de l'État, dans la ville de Montpellier, pour voter et désigner le vainqueur de la présidentielle du 3 novembre. Dans le Vermont, la victoire de Joe Biden a été écrasante, 66% des voix contre 30% pour Donald Trump. Les trois grands électeurs prêtent serment. Puis, logiquement, accordent leur vote à Joe Biden et Kamala Harris. Le résultat est mis sous pli et envoyé à Washington pour être officialisé par le Congrès le 6 janvier prochain. Au fil de la journée, les 50 États américains vont organiser la même cérémonie dans les capitoles locaux. Seul le Nevada a prévu un vote à distance. La Californie sera la dernière à se prononcer et à donner ses voix aux candidats démocrates. Ce soir, Biden aura donc recueilli 306 grands électeurs contre 232 pour Donald Trump. Il en fallait 270 pour être élu. Trump n'a plus de recours possible et même s'il continue de clamer que l'élection a été truquée, Joe Biden deviendra le 20 janvier prochain à midi le 46e président des États-Unis.
Une correspondance de Grégory Phillips. Et dans quelques minutes, le temps du débat revient sur la présidence de Donald Trump avec une question ce soir. Donald Trump a-t-il rendu à l'Amérique sa grandeur? Et comme un message envoyé à la future administration, Biden, Emmanuel Macron a plaidé aujourd'hui en faveur du multilatéralisme et de la coopération internationale lors du 60e anniversaire de l'OCDE célébré à Paris, l'organisation de coopération et de développement économique qui est clairement vue par le président français comme un modèle, Bertrand Galichet.
Oui, Emmanuel Macron ne tarit pas d'éloges sur le CDE, fondé dans le prolongement du plan Marshall pour favoriser le libre-échange et le développement sur la base des études qu'elle publie et des conseils qu'elle prodigue. Forte de ses 37 pays membres, l'organisation est à ses yeux un contre-exemple dans un contexte où le multilatéralisme, cheval de bataille du président français, est souvent critiqué. Le chef de l'État dénonce en miroir certains comportements inacceptables alors que le monde traverse une période critique.
La crise démographique, technologique, climatique, celle des inégalités, est aujourd'hui accélérée, comme révélée encore davantage par la pandémie. Face à cela, je crois dans la science, les faits, l'expertise indépendante, plutôt que dans le complotisme, la manipulation de l'information ou le nouvel obscurantisme. Face à cela, je crois dans la coopération plutôt que dans le repli nationaliste ou la brutalité.
Emmanuel Macron, qui met en exergue les négociations menées par l'OCDE pour la taxation des grandes entreprises du numérique, une poignée d'entre elles, dit-il, réalise depuis plusieurs années d'énormes bénéfices sans la plupart du temps payer leur juste part d'impôts. Un 60e anniversaire célébré au siège parisien de l'organisation au château de la Muette en comité très réduit. Covid oblige.
Les explications de Bertrand Galichet. Alors que les négociations sur le Brexit n'en finissent plus de ne pas finir, Londres annonce des discussions avec EDF autour de la construction d'une nouvelle centrale nucléaire prévue sur la côte est de l'Angleterre. D'ici 2024, ce projet nommé Sizewell C est évalué à près de 20 milliards d'euros et serait capable de fournir de l'électricité à 6 millions de foyers. Entre sa construction et son exploitation, cette centrale pourrait créer plusieurs milliers d'emplois, selon le gouvernement britannique. La Russie est-elle à l'origine de l'empoisonnement d'Alexei Navalny? Nouvelle révélation aujourd'hui de Bellingcat, un groupe international indépendant de chercheurs, d'enquêteurs et de journalistes. Le groupe a publié un rapport mettant en cause Moscou et selon ce rapport, Élise Delève, le service secret FSB aurait suivi de très près l'opposant Navalny pendant plusieurs années avant son empoisonnement.
D'après le groupe Bellingcat, Navalny était secrètement suivi par le FSB depuis 2017, depuis qu'il avait annoncé s'opposer à Vladimir Poutine pour l'élection présidentielle. Selon le rapport, l'opposant était surveillé par une équipe très particulière, une unité des services secrets russes spécialisée dans l'utilisation de poisons. Pour en arriver à cette conclusion, les journalistes enquêteurs se sont appuyés sur un nombre volumineux de données téléphoniques et de voyages. Ils ont découvert que les agents ont suivi Navalny au cours de 30 déplacements à travers la Russie. En juillet, une première tentative d'empoisonnement aurait eu lieu, selon Bellingcat, à Kaliningrad. La femme de Navalny confirme avoir été malade comme elle ne l'avait jamais été. En août, les relevés téléphoniques montrent que 3 agents du commando spécial ont fait le voyage avec Alexei Navalny sous une fausse identité, 2 d'entre eux étant des médecins. Selon le rapport, les membres de cette unité secrète ont communiqué entre eux pendant le séjour avec, je cite, « un pic soudain d'échanges juste avant que l'opposant ne soit empoisonné ». Pour Bellingcat, toujours en se basant sur les données téléphoniques qu'il a pu regrouper, cet acte a été commandité par l'échelon le plus haut du Kremlin. Officiellement, pas de preuves et pas de raison d'enquêter. 3 jours avant la publication de ce rapport, Vladimir Poutine a fait un point sur cette affaire. Pour le président russe, il n'y a pas assez de matière pour ouvrir une enquête criminelle.
Les précisions d'Élise Delève. 400 journalistes arrêtés dans l'exercice de leur métier en 2020. C'est le bilan tristement classique de Reporters sans frontières qui pointe notamment du doigt la Chine, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Un bilan global très proche de celui de l'an dernier. En revanche, un autre chiffre ressort particulièrement, celui des femmes journalistes en détention. Un chiffre qui est en nette augmentation, Nadine Epstein.
Une augmentation de 35% selon RSF. Il y a en ce moment 42 femmes journalistes qui sont emprisonnées. Elles étaient 31 l'an dernier. Parmi les pays les plus répressifs cette année, il y a le Bélarus où la police pourchasse férocement les manifestants qui protestent depuis cet été contre la réélection du président. Enlèvements, tortures, arrestations arbitraires et détentions à répétition, parfois quelques heures, le plus souvent quelques mois et plus. Ainsi actuellement au Bélarus, 4 femmes journalistes sont sous les verrous, tout comme en Iran, en Chine et au Vietnam. Reporters sans frontières alerte aussi sur la répression et la crise sanitaire. Le nombre d'arrestations et d'interpellations arbitraires ont quadruplé entre les mois de mars et mai 2020. Des pays ont profité de l'épidémie du Covid-19 pour renforcer leur contrôle sur les médias et l'information. Ainsi au Rwanda, en Jordanie, en Chine, en Birmanie, en Iran, plusieurs journalistes sont emprisonnés pour, je cite, « avoir enfreint les règles du confinement ». Autre inquiétude de RSF, 54 journalistes sont retenus en otage, notamment en Syrie, en Irak, au Yémen, où ils risquent la peine de mort pour certains, comme ceux capturés par les Houthis. Enfin, l'ONG relève que 4 journalistes originaires du Moyen-Orient, d'Afrique subsaharienne et d'Amérique latine sont portés disparus en 2020.
Et RSF publiera le 29 décembre son bilan des journalistes tués en 2020. Un mot de la météo avant de nous quitter. Les Landes et la Gironde sont placées en vigilance orange pour des risques de crues. Demain matin, de la pluie pour tout le monde, à l'exception du pourtour méditerranéen, des Pyrénées-Atlantiques et de la Corse. Côté température, comptez 5 à Strasbourg, 9 à Lille, 10 à Paris et Bordeaux, 11 à Lyon et 13 à Marseille. C'est la fin de ce journal. Il vous a été préparé par Jean-François Braun, à la technique Jean-Guilain Meige.